venir, ce sera intéressant. On va parler, vous verrez de quoi on va parler, la différence entre tous les cycles. Bon, ce soir, j'ai tâche de présenter Antoine. Antoine est psychologue clinicien, mais à double titre. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Il est psychologue thérapeute dans un service d'intégration scolaire, donc avec des enfants, premièrement, et à double titre, parce qu'il est aussi psychologue en milieu carcéral. Donc on voit aussi l'écart que parfois un psychologue peut être amené à travailler entre d'un côté les enfants et de l'autre les prisonniers. Ce soir, Antoine va nous parler d'un auteur et d'un psychanalyste français qui s'appelle Didier Anzieux. Et le titre de son intervention, c'est « L'émergence du sujet différencié de son environnement ». Voilà, je vais lui laisser la parole. À toi.
Merci. Donc, la semaine dernière, avec la question de la transitionnalité, on a commencé à aborder la question de la différenciation entre le sujet et l'objet, donc entre le moi et le non-moi. Donc, on va approfondir cette question, cette problématique, à travers la question de ce qu'on appelle les enveloppes psychiques, le moi-peau. C'est tout un ensemble de concepts qui décrivent une fonction qui est capitale au sein de la psyché, c'est la fonction contenance. Donc, ces notions d'enveloppe, de peau psychique, etc., en définitive, c'est un peu une métaphore de cette fonction contenante. Cette fonction, ce n'est pas un objet psychique en soi, c'est plutôt un ensemble de processus qui sont à l'œuvre au sein de la psyché. Donc, moi, je vous propose de partir de quelques petites questions pour mieux cerner notre sujet. Alors, comment le sujet va émerger petit à petit en se différenciant de son environnement? Donc, ça reprend le titre. Comment est-ce qu'il va arriver à définir ce qui revient au moi, au non-moi, c'est-à-dire à l'autre, aux autres? Comment est-ce qu'il va regrouper toutes ces expériences pour constituer un moi différencié et organisé avec un sentiment d'être et des limites qui lui permettent non seulement de ne pas se diluer et se répandre dans l'environnement, mais aussi de pouvoir échanger avec celui-ci? Voilà, comment est-ce qu'un sujet va être amené à se construire et à s'individuer? Voilà la problématique que je vais essayer de travailler. Donc, la théorisation en métapsychologie, ça passe très souvent à travers l'observation d'une part des enfants bas âge et d'autre part des sujets pathologiques, par un travail de déconstruction et de reconstruction d'un certain nombre de processus comme ça qui semblent vraiment aller de soi pour les adultes, adultes et avec une psyché mature dans la mesure du possible que nous sommes. Donc, dans le cas présent, on sait tous, évidemment, dans la majorité des cas, ce qui nous revient et puis ce qui va revenir aux autres. C'est-à-dire, dans le cas présent, là, vous m'entendez parler au micro, vous savez bien que c'est une voix qui vient de moi, vous voyez mes lèvres bouger, vous savez que, etc., que c'est pas une émanation de vous-même. Alors ça, cette capacité à différencier le dedans du dehors, eh ben, elle est pas forcément immédiatement acquise par l'être humain. C'est plutôt un travail de différenciation qui va avoir lieu petit à petit. C'est une potentialité qui existe dès le départ, elle est innée, mais elle va se développer et ne devenir efficiente qu'à travers les expériences précoces. C'est pour ça que l'importance des premiers objets de relations sont extrêmement importantes. Donc on va beaucoup s'attarder aujourd'hui sur les premières relations. Donc j'ai aussi un petit rappel, c'est que ça reprend ce qui se disait les fois précédentes, c'est que l'être humain naît prématuré, aussi sur le plan neurologique, parce que ça renforce d'autant plus cette importance des relations précoces, notamment lors de la première année, parce que c'est quand même à ce moment-là qu'il y a un certain nombre de processus qui vont avoir lieu et qui vont permettre aux potentialités de la psyché de pouvoir se concrétiser. Donc, on va partir du... Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement, le processus de mon intervention. On va partir du moi. Donc le moi, en tant qu'instance de la seconde topique chez Freud, alors on va être amené à recontextualiser ça. Et ensuite, on va travailler, évoluer à travers de différents auteurs, notamment les auteurs de la Tavistock Clinic, donc des psychanalystes anglais. On va travailler la question des relations précoces. Et puis, on va aboutir au mois peau, qui est le concept phare de Didier Anzieu, qui est un petit peu finalement la synthèse de tout ce qui a été un petit peu fait jusque-là sur la question. Donc, on va revenir sur le moi. Donc, le moi, c'est une notion qui est un petit peu indéfinie au départ. Hein. C'est à la fois littéraire, c'est philosophique. Ça a émergé au cours des 16, 17, 18e siècle au sein de notre civilisation. Et ça va quand même de pair, et c'est inextricablement lié avec la question de l'individu, l'essor de l'individu. Donc, par exemple, chez Pascal, au XVIIe siècle, on trouve déjà cette question qui commence à apparaître. Il était, on va dire, parfois un peu agacé par les esprits qu'il pouvait fréquenter, et il arrivait à dire comme ça, le moi est haïssable. Donc, ça signe que déjà, dans son environnement à l'époque, ça commençait à prendre de l'importance. Donc, plus tard, quelques décennies plus tard, on va trouver Rousseau. Et donc la question, j'amène Rousseau parce que la question de l'autobiographie sur le plan littéraire, c'est aussi la consécration de la question du moi et de l'expérience spécifique de l'individu. Alors là, je vous ai noté l'introduction, le prologue de ses confessions. Voilà, il dit « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi, moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. » Si la nature a bien fait ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on peut juger après m'avoir lu. Donc là, on voit tout de suite la question de l'expérience spécifique de l'individu qui commence à se poser. Donc, alors la psychanalyse dans tout ça. La psychanalyse, ça, je reprends un petit peu des choses qui ont été dites lors de cours précédents ou lors de la discussion, il était finalement question de... C'était des philosophies orientales ou ces questions-là. La psychanalyse, c'est c'est indéniablement un fruit de la civilisation occidentale. C'est-à-dire que c'est une forme de thérapie, une forme de prise en charge qui met vraiment l'individu et son expérience à lui, c'est son expérience spécifique au centre. Voilà, il raconte ça à quelqu'un d'autre et puis il s'en ressaisit pour mieux se comprendre lui-même. On est quand même dans quelque chose qui signe un mouvement de civilisation, qui est un mouvement de fond. Alors, Freud, qu'est-ce qu'il entend par moi ? Donc, là, il y a une date qui est un petit peu charnière, c'est la date de 1923, qui est la publication de son ouvrage qui s'appelle « Le moi et le ça ». Avant cette date... On trouve parfois ce terme de « moi » chez Freud, c'est plus finalement un synonyme de psyché, d'esprit, d'âme, de soi, c'est un terme qu'il emploie pour dire, varier un petit peu son vocabulaire. À partir de cet essai « le moi » et de ça, il amène autour de cette question une définition précise, il entend quelque chose de particulier. C'est une instance qui a vraiment une place particulière. Donc, ça, c'est le moi avec le ça et le surmoi. Vous connaissez sans doute tous ce triptyque-là. C'est la deuxième topique. Alors, je pense qu'avant d'amener la deuxième topique, on va redire un mot de la première, puisque ça n'a pas forcément été beaucoup évoqué dans les semaines précédentes. Donc, cette première topique que Freud a proposée dès le début de sa théorisation pour modéliser un peu le fonctionnement psychique. Donc ça, la caractéristique principale, ça a été l'introduction d'une vie psychique inconsciente. Donc préconscient, système préconscient-conscient, et puis un inconscient qui est constitué d'éléments refoulés par ailleurs. Donc, pour situer rapidement les choses, Freud part du système perceptif. Donc l'appareil psychique perçoit des éléments internes, des éléments externes. Et ces éléments, il les mémorise, il les engramme. Et en fonction de leur utilité, soit du fait qu'ils sont dérangeants, perturbateurs, causent le déplaisir, il y a une partie de ces éléments qui vont être refoulés. En tout cas, il y a une force qui est figurée par la censure, qui sert à maintenir ces éléments-là au sein de l'inconscient, pour les empêcher de venir déranger le champ de la conscience. Donc, en grosso modo, on a un système psychique, mnésique, finalement, qui est avec des éléments qui sont séparés en deux catégories. Il y a la mémoire qui est disponible, c'est-à-dire tous les éléments, il suffit de faire un petit effort pour se souvenir, pour aller chercher. Donc là, on est dans le préconscient. Le conscient, c'est évidemment ce qu'on a à l'esprit au moment T. Et donc, il y a les éléments inconscients, qui sont tous les éléments refoulés pour toutes sortes de raisons, par la censure. Et puis, donc, la censure, en fonction de la nature de ces éléments, elle peut être levée de façon plus ou moins facile. Et donc, dans les premières années, Freud a essentiellement travaillé avec ce modèle-là, avec l'idée qu'il fallait faire émerger de l'inconscient les éléments, que les symptômes, c'était le signe qu'il y avait des éléments refoulés et qui perturbaient indirectement le fonctionnement psychique. Donc cette première topic, elle allait de pair avec une psyché qui a été conçue comme fonctionnant sur le principe de plaisir et déplaisir. Donc la censure était là pour chasser les éléments fauteurs de troubles, tous ceux qui faisaient monter la tension psychique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a travaillé sur le rêve, la Traumdeutung, l'interprétation des rêves de 1900. Donc le rêve étant le gardien du sommeil, la censure ne laissait filtrer les éléments vers la conscience qu'une fois que le travail du rêve avait fait son œuvre, c'est-à-dire que le rêve latent, c'est-à-dire le rêve caché, était transformé en un rêve manifeste, c'est-à-dire avec des déplacements, etc. Donc là, c'était le modèle de la première topic de Freud. Alors, Freud va être amené en 1920 à écrire Au-delà du principe de plaisir, des choses qui vous ont été déjà dites plusieurs fois les semaines précédentes. Et donc, à cette occasion-là, il constate que son modèle et sa théorisation butent à certains endroits, qu'elle n'est pas fausse, mais qu'elle est incomplète. Donc, il va être amené à remanier son corpus théorique. Et c'est dans ce cadre-là que, 3 ans plus tard, il va être amené à écrire le moi et le ça, et donc d'introduire la deuxième topic. Donc, la deuxième topic, donc là, je vous mets le schéma que Freud lui-même a dessiné pour la figurer. Alors ça montre bien que les deux topics ne s'opposent pas, mais qu'elles s'imbriquent, qu'elles coexistent ensemble. Donc la deuxième topic, elle introduit la question du moi. Évidemment, c'est quand même ça dont il est question ce soir. La seconde topic va introduire l'idée d'une psyché qui va se construire avec des espaces différenciés qui sont porteurs de tendances antagonistes. Ça filtrait déjà plus ou moins à travers le premier modèle, la première topic. Il va apporter une dimension supplémentaire à cet endroit-là sur la deuxième. Donc Freud part du ça. Donc le ça, je vais le citer. Il dit, je propose d'appeler moi l'identité qui a son point de départ dans le système P, le système perception, et qui est en premier lieu préconscient. Et en réservant la dénomination de ça à tous les autres éléments psychiques dans lesquels le moi se prolonge en se comportant d'une manière inconsciente. Dans sa première idée, c'est que finalement, le ça, c'est l'inconscient. Il va affiner son idée, c'est-à-dire que pour lui, le ça, c'est la psyché originelle. Ce qu'il nous dit, c'est que le moi est une partie du ça qui a subi des modifications sous l'influence directe du monde extérieur et par l'intermédiaire de la conscience-perception. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une psyché qui est porteuse d'un certain nombre d'éléments bruts, des pulsions, des instincts, etc. C'est désorganisé. Et avec le contact avec le monde extérieur, avec l'environnement, à travers forcément le système de perception, la psyché se transforme. La psyché est obligée de s'adapter aux effets du monde extérieur que ce monde a sur elle. Donc c'est là qu'on retrouve c'est la citation « Wes war soll ich werden ?»« Où est-elle ça doit devenir le moi ?» C'est pour Freud, le moi, c'est l'instance qui est, voilà, je le cite encore, elle représente ce qu'on appelle la raison et la sagesse. C'est-à-dire qu'au départ, Freud nous dit ça. C'est-à-dire que s'oppose le ça, c'est-à-dire toutes les instincts, impulsions, tous les désirs bruts, et en face de ça, il y a le moi. Et le moi est là pour réguler cette activité psychique, si j'allais dire, trouver des compromis pour faire la part des choses entre le principe de plaisir qui est incarné par le ça et le principe de réalité qui s'oppose de l'extérieur. Donc ce que nous dit Freud, alors peut-être avant de continuer sur le moi, je vais dire un mot sur le surmoi. Donc le surmoi, c'est une partie spécifique du moi. C'est-à-dire, il n'y a pas, de toute façon, là on est dans les modèles, c'est-à-dire que on met des concepts sur un ensemble de processus, mais il n'y a pas des délimitations qui sont extrêmement strictes. Donc le surmoi, c'est l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la conscience morale du sujet, hein. C'est l'ensemble des énoncés, des attitudes, des parents, des premiers objets d'investissement, c'est-à-dire c'est un certain nombre de prescriptions, d'interdits qui orientent finalement le comportement du sujet, qui l'intègre. Voilà. Donc c'est une partie spécifique du moi, c'est-à-dire que c'est toute l'intégration de toutes ces forces qui s'imposent à travers les objets, les parents, etc., qui quand même pour le sujet qui est petit, les parents sont quand même tout puissants ou pas loin de l'être. Voilà. Donc ils ont une influence énorme sur lui, et c'est la manière dont ceux-ci lui disent de se comporter, ça a forcément beaucoup d'influence. Donc là, j'ai précisé qu'il s'agit des énoncés ou des attitudes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur le terme d'énoncés, etc., mais ça passe quand même aussi beaucoup par des attitudes, un regard désapprobateur, etc. Ça prend autant de sens pour l'enfant que le fait de lui dire non. Voilà. Alors je reviens sur le moi. Donc le moi, Freud nous dit que c'est une organisation cohérente des processus psychiques qui exerce un contrôle sur tous les processus partiels. Donc le moi est là pour permettre à la psyché de garder une unité en faisant tenir ensemble, en faisant concilier toutes les forces antagonistes qui la traversent. Donc le moi, il a une fonction médiatrice, une fonction arbitrale entre les tendances intrapsychiques, mais aussi entre le dedans et le dehors. Alors, puisque c'est le sujet de l'intervention, on va s'intéresser plus particulièrement à cette fonction de médiation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, ce qui est intéressant à cette date-là, c'est que est introduit dans le corpus psychanalytique, avec l'apparition du moi comme fonction arbitrale comme ça, l'apparition d'une instance qui est faite pour négocier avec la réalité extérieure. Et ça ouvre tout droit en corollaire la possibilité que cette instance soit mise en échec, qu'elle puisse être submergée par l'environnement extérieur ou par les forces psychiques qui viennent du dedans. Quand on postule une fonction, on ouvre de fait la potentialité qu'elle puisse être défaillante. Donc, je disais tout à l'heure que l'appareil psychique du bébé, il est à l'origine immature, complètement immature. Donc, bon, ce qu'il faut essayer, c'est de se remettre un petit peu l'espace d'un moment à la place d'un bébé, un peu dans... Donc le bébé, il se retrouve parachuté dans un monde comme ça, qui est saturé de perceptions. Il va percevoir de manière un peu désordonnée. Il y a toutes des sensations externes qui doivent à ses sens. Le chaud, le froid, le goût de ce qu'il a dans la bouche, il y a des odeurs, il y a des sons, il y a tout un certain nombre de perceptions extérieures. Et puis il y a aussi toutes les sensations internes, des sensations signales, la fatigue, la soif, la faim, etc., etc. Donc, le bébé, il se retrouve avec toutes ces informations-là à gérer, mais il n'a absolument pas la maturité psychique pour pouvoir organiser tous ses vécus. Il ne peut pas les catégoriser, déterminer les causes, les origines. Donc, par conséquent, il n'est pas encore en mesure de faire vraiment la différence entre le dedans et le dehors. C'est un peu un magma perceptif qui s'impose à lui, que sa psyché immature n'est pas du tout en mesure de contenir et d'organiser. Et donc là, c'est là que le rôle des interactions précoces va être primordial. Donc il y a différents auteurs qui ont travaillé ces questions des interactions précoces et du développement psychique de l'enfant. Donc là, je vais vous parler de la tabliste clinique et autour de deux noms en particulier, Wilfried Bion et Esther Bick. Donc on va commencer par Wilfried Bion. Donc Bion propose dans un ouvrage qui s'appelle « Aux sources de l'expérience » qui date de 62, un modèle qu'il appelle le modèle du contenant-contenu. Donc l'idée générale, c'est la suivante. L'expérience que je viens de vous décrire auparavant, la confuse, chaotique du bébé, toutes ces saturations de perception, toute cette expérience-là, elle a besoin d'un contenant qui puisse accueillir et transformer cette expérience pour lui permettre de la détoxiquer et puis de l'assimiler, de l'intégrer psychiquement. Alors, petite précision, le contenant... c'est pas l'objet, enfin, le contenant c'est pas la mère, le contenant c'est le sens qui va être donné à la perception, au vécu un petit peu chaotique auquel le bébé fait face. Donc ce que nous dit Bion, c'est que le contenu, pour qu'il puisse être appareillé au contenant, il faut que ces deux éléments entretiennent une relation commensale. Alors, commensale, ça veut dire qu'ils doivent entretenir une relation, on va dire, saine, non paradoxale. Pour donner un exemple un peu simple, si un enfant a faim et que vous répondez à côté de son vécu, vous comprenez qu'il est fatigué, vous allez le coucher, là, on ne va pas être dans une... entre la réponse que vous lui faites et son vécu interne, il n'y aura pas une relation commensale, on va dire, entre ces deux attitudes. Donc, une fois que vous faites une réponse adaptée aux besoins du moment de l'enfant, donc il y a le contenant-contenu qui sont liés, on va dire, et c'est la répétition de ces expériences, la réintrojection répétée à chaque fois de ces nouveaux modèles contenant-contenu qui permet à l'enfant de développer son propre appareil à penser. Voilà, dans quelque chose qui est dans de l'ordre d'une rythmicité, les expériences doivent être répétées pour pouvoir être intégrées. Alors ça rejoue ce que Bion, toujours lui, va va traduire par la fonction alpha. Alors la fonction alpha, c'est un premier pas dans l'activité de pensée, hein, ça reprend le modèle du contenant contenu. On va dire que le bébé produit des éléments que donc Bion appelle des éléments bêta, c'est les éléments bruts, les éléments chaotiques, désorganisateurs, et que la mère, on dit la mère traditionnellement, ça peut être quelqu'un d'autre éventuellement, la mère, à travers un travail de rêverie, à travers un travail de symbolisation de ces éléments bêta, va occuper une fonction alpha et donc va transformer les éléments bêta en éléments alpha. Et les éléments alpha vont pouvoir être intégrés par l'appareil psychique de l'enfant. Et donc là encore, c'est un travail qui s'inscrit dans le temps et par la répétition de ces expériences-là. Donc, il faut traduire ça simplement. Le rôle de la mère, c'est de mettre ses capacités psychiques au service de l'enfant afin de lui permettre d'assimiler l'expérience brute. Donc, cette fonction alpha, vous comprenez bien qu'elle est parfaitement essentielle au développement psychique, car sans elle, l'enfant n'aurait d'autre recours que de se couper de ses expériences, qu'il est de fait incapable d'intégrer, de contenir. Donc, il serait obligé de rentrer dans un processus de clivage pour se séparer de ces expériences qui sont terribles, qui sont traumatisantes. Bion a un terme pour qualifier ces vécus, une fois pour l'enfant, de vécus non symbolisés. Il parle d'un nameless terror, donc de terreur sans nom. Et là, j'insiste sur le sans nom. C'est justement parce que ces expériences ne sont pas symbolisées, ne sont pas circonscrites dans le langage et au-delà du langage, dans l'expérience en général, qu'elles sont le plus angoissantes possible. Et donc, là encore, si ces expériences de terreur sans nom sont amenées à se répéter parce que l'objet, la mère, n'est pas suffisamment bonne, pour reprendre l'expression de Winnicott, c'est-à-dire que l'enfant va faire du clivage un mécanisme de défense qui devient primordial, il ne peut pas faire autrement que de s'engouffrer là-dedans, et bien petit à petit, ce type d'expérience amènerait l'enfant à évoluer vers l'autisme ou vers la psychose. Là, on est dans des cas un petit peu général, théoriques. Difficile d'avoir des pronostics directs comme ça, mais enfin, l'idée est là. Donc la fonction alpha, c'est une expérience de contenance. On trouve l'idée de contenance. Alors, on met toujours en avant la question de l'inscription dans le langage, le fait de mettre des mots sur ces expériences-là, mais ça passe aussi et surtout peut-être pour l'enfant en bas âge, par une inscription dans le corps. Là, si on reprend l'expérience de nourrissage, qui est un peu l'expérience prototypique autour de laquelle il y a beaucoup de choses qui s'organisent dans la première année de la vie, l'enfant, quand il est tiraillé par la faim, donc il est réconforté d'une part par la répression, c'est-à-dire le fait que sa sensation de faim va être amenée à disparaître. Mais il est aussi, et c'est important de le noter, il est aussi réconforté par un mouvement général d'apaisement, avec des paroles, ce que je disais, donc une prosodie, etc. Mais aussi des contacts physiques, des sensations, etc., etc. Les caresses, le portage. Et donc c'est cette association psychique entre ces éléments-là, c'est-à-dire toute l'expérience de nourrissage, le fait d'être porté, toutes les odeurs caractéristiques, le goût que peut avoir le lait, le contact, etc., l'odeur de la mer, enfin, tout un certain nombre de choses. qui caractérise cette expérience, c'est cette fonction contenante, elle vient non pas du fait de dire tu as faim, ça vient de dire tu as faim et je réponds à ta faim par tout ce processus-là. Et c'est justement en intégrant ces éléments-là et en les associant ensemble qu'il y a un appareil à penser qui commence à se développer. Alors on retrouve ces éléments de faire un lien entre l'expérience du corps et les mots, on va dire, le langage. On retrouve ça même plus tard. Il suffit de voir un enfant qui va se cogner, par exemple. Alors, quelle réaction on peut avoir face à un enfant qui se cogne ? Alors, d'une part, on a évidemment tout ce mouvement d'apaisement, d'être réconfortant par la parole, ça implique une tonalité dans la voix, ça implique etc. Mais aussi, on va y associer des gestes. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on va faire un bisou, qu'on va faire une caresse, qu'on va souffler sur la zone qui était endolorie par le fait qu'il se soit cogné. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de... C'est cet ensemble d'éléments qui continue à avoir besoin d'être intégré. Et plus l'enfant est petit, évidemment, plus la dimension perceptive, plus l'inscription corporelle est mise en avant, et puis de la manière la plus naturelle qui soit. On ne s'adresse pas de la même façon à un enfant tout petit, voire à un bébé, et à un enfant plus grand ou à un adulte. Voilà. On a de façon intuitive cette connaissance-là, finalement. Alors, ce que je dis là, dans le cadre du fait de réconforter un peu un sujet dans un état de détresse, c'est aussi valable dans ce que je disais tout à l'heure, dans la constitution du surmoi. C'est-à-dire que quand un enfant fait une bêtise, on ne va pas se contenter de lui dire « c'est pas bien ce que tu as fait », on va souvent, on va faire des gros yeux, on va prendre une grosse voix surjouée, donner une petite tape, etc. Tous ces éléments-là sont dans la... C'est un petit peu le même processus qui est à l'œuvre. Donc cette capacité qu'a la mère à mettre ses capacités d'élaboration psychique au service de l'enfant, et là je mets aussi un accent là-dessus, comme la capacité qu'a l'enfant à aller emprunter les capacités de l'autre, ça fait partie, on va dire, du bagage un peu inné de la communication humaine. Et après, c'est de savoir si à travers ces potentialités sont développés ou pas par l'expérience. Donc ces mécanismes, ces processus, ils perdurent à l'âge adulte, parfois même de façon consciente, c'est-à-dire qu'on a un problème, des soucis, etc. Quel est un petit peu le réflexe qu'on peut avoir, en tout cas qu'on devrait avoir, ce serait d'aller en parler. On reste dans ce processus-là, c'est-à-dire d'aller chercher chez quelqu'un d'autre une capacité à contenir ce qu'on a du mal soi-même à contenir seul. Et voilà, le fait d'être psychologue, on travaille à partir de ça, il n'y a pas de secret. Donc la question de ces mécanismes qui sont innés, c'est quand ils dégénèrent, c'est-à-dire soit parce qu'ils ne sont pas du tout exploités, ou à l'inverse, parce qu'ils sont surexploités, que le sujet peut prendre une tournure pathologique. Voilà. C'est notamment quand le cas du, on va dire, qu'on va appeler le feedback, le fait de, parce que ce qu'on note depuis tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est que le sujet donne à penser à l'objet et se réapproprie dans un deuxième temps l'expérience. Ce qu'on note à l'inverse, c'est quand le sujet, de façon pathologique, je veux dire, c'est quand le sujet exporte chez l'objet sa problématique, ses vécus douloureux, etc. Mais les projette, c'est un aller simple. n'est pas en mesure de se les réapproprier par la suite. Au départ, le terme d'identification projective a été amené par Melanie Klein. Ça a été un terme, un concept qui désignait au départ un processus pathologique. C'est-à-dire, c'était justement le fait d'aller faire éprouver aux autres inconsciemment ce qu'on n'est pas en mesure soi-même de contenir, mais de façon, de manière pathologique et de manière désorganisatrice pour l'objet, finalement. Alors que Bion amène l'idée d'une identification projective, qu'il va appeler une identification projective réaliste, qui consiste en ce processus normal, c'est une identification projective normale. Voilà. C'est-à-dire, de temps en temps, on est amené à mettre, à aller emprunter les capacités de contenance chez l'autre. Voilà. Donc, les notions d'objet contenant, de fonction alpha, de fonction enveloppe, etc., elles induisent d'une part un processus d'identification projective qui permet de communiquer des états affectifs, c'est une première chose, et puis d'autre part, un monde psychique qui va être organisé spatialement. Voilà. Freud a tout de suite noté avec le fait de proposer des topiques avec des instances psychiques différenciées. Alors là, on va revenir, et je vais vous parler d'Esther Bick. Donc, on va revenir sur l'expérience du nourrissage. Donc, dans un article de 68, qui s'appelle « L'expérience de la peau dans les relations d'objets précoces », vous voyez qu'on va commencer à introduire la question de la peau, Esther Bick, elle décrit la fonction psychique de la peau dans le développement du bébé. Elle montre la nécessité de l'expérience d'un objet contenant auquel le bébé puisse s'identifier afin de se sentir suffisamment contenu dans sa propre peau. Là, je vais vous la citer. Elle nous dit « Le besoin d'un objet contenant apparaît dans l'état infantile non intégré comme la recherche effrénée d'un objet » alors, une lumière, une voix, une odeur ou un autre objet sensuel, donc un objet qui peut tenir l'attention et de ce fait être expérimenté momentanément tout du moins comme tenant ensemble les parties de la personnalité. Et là, ce qu'elle nous dit, l'objet optimal est le mamelon dans la bouche accompagné du portage, des paroles et de l'odeur familière de la mère. Donc là, on retrouve l'idée que j'abordais tout à l'heure dans le fait d'associer tous ces éléments-là. Donc, ce que Esther Bick nous montre dans cet article, c'est que c'est comment cet objet contenant permet au sujet de l'éprouver comme une peau, c'est-à-dire comme quelque chose qui va le rassembler et contenir son expérience. Voilà, et elle nous dit que la jonction entre les différentes modalités sensorielles, le portage, l'enveloppement, le bain de parole, la plénitude interne, tout ça, ça donne au bébé un sentiment moïque primaire, un premier sentiment d'être. Donc, c'est cette expérience-là de se rassembler de façon psychique autour d'une expérience qui donne à l'enfant un premier sentiment d'existence individualisé. Alors, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que à cet âge-là, l'enfant va de la même manière se rassembler autour d'expériences perceptives. Voilà, l'œil qui fixe une lumière, ou l'oreille qui s'arrête sur un bruit, le corps qui se concentre sur un bercement, sur un balancement éventuellement, c'est autant de bouches qui agrippent un mamelon. C'est-à-dire que voilà, c'est à travers, en se concentrant sur des expériences perceptives, que l'objet sera, que l'objet, le sujet sera simple. Et donc, Esther Bick, là, nous propose de différencier deux peaux. Elle nous parle de première peau et de seconde peau. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? La première peau, c'est finalement l'expérience intégrée. C'est-à-dire, c'est quand la fonction alpha marche bien. On peut dire ça comme ça. Quand, la, quand l'enfant arrive à suffisamment bien se rassembler autour de son expérience. Et elle oppose cette première peau à ce qu'elle appelle une seconde peau, où là elle nous dit que la dépendance envers l'objet, donc envers la mère, est remplacée par une pseudo-indépendance. Voilà, en créant un substitut à cette fonction de contenant peau. Voilà, Esterlik montre comment, lorsque cette expérience de rassemblement interne fait défaut, le bébé il va s'accrocher à des sensations, à des objets sensations qui vont maintenir provisoirement l'illusion d'un rassemblement. Mais c'est quelque chose d'illusoire, il s'agrippe à des perceptions, mais on peut dire que ça ne concourt pas à lui permettre d'intégrer et de se différencier. Une fois qu'il perd cette perception, il y a un retour immédiat du sentiment chaotique. On va dire ça comme ça. Alors, on trouve ça, la seconde peau, ça peut être de nature musculaire, mais souvent on a quelque chose au niveau du corps et de la tonicité. Un corps qui va se raidir, ou une agitation permanente, ça peut. On est dans quelque chose qui, le fait de s'agiter en permanence, ça permet au sujet de se sentir exister. Alors tout ça, c'est un peu une lutte contre des angoisses primitives. Alors, ce qui est intéressant, et ce que nous amène le modèle d'Esterbik, c'est que le contenant, c'est plus finalement on renverse un petit peu la métaphore de la peau qui donne une limite extérieure, c'est que c'est plutôt un objet attracteur. C'est au centre que ça se passe, et le sujet se concentre, se rassemble autour d'une expérience. Donc ça, c'est ce que nous dit un psychanalyste français qui s'appelle Didier Houzel, donc il considère que la fonction contenante, c'est un processus de stabilisation de mouvances pulsionnelles et émotionnelles qui permet la création psychique douée de stabilité structurelle. Ça veut dire que cette fonction contenante, elle permet au sujet de se créer une stabilité interne qui va lui permettre ensuite de se détacher de l'expérience pour pouvoir, il n'aura plus toujours besoin de s'agripper à ses sensations pour se sentir rassemblé, exister, et finira par l'avoir psychiquement intégré. Donc voilà, ce qu'on nous dit, c'est que l'objet contenant, il va focaliser, stabiliser les forces psychiques. Ça permet de... Là, j'aurais peut-être une image. On a souvent recours aux métaphores pour essayer de mieux comprendre ce dont on parle. Là, l'image qui me venait, c'était des métaphores de type astronomique. C'est-à-dire que, comme un corps céleste, une étoile, un soleil, qui a des planètes qui gravitent sur une orbite autour, à une distance donnée. À quelque chose qui... avec une distance qui est stable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose où l'attraction n'est pas suffisamment forte, ce qui ferait que le corps irait se perdre dans l'espace. Et à l'inverse, on n'est pas dans une attraction trop forte, ce qui ferait que tout viendrait se concentrer en un point et duquel on pourrait plus s'extraire. C'est un système stable. Donc cette enveloppe, c'est une métaphore parmi d'autres. Voilà, ça peut se décliner de façon différente. On parle d'enveloppe psychique, de peau psychique, d'objet contenant transformateur, d'objet attracteur. Bon, il y a d'autres métaphores de cette fonction. On peut parler d'objet interne, support, etc., etc. Bon. On va en venir à la question du moi-peau. Donc le moi-peau, donc on arrive à Didier Anzieux. Donc c'est un peu un concept qui, un concept qui se veut synthétiser un petit peu toutes ces idées précédentes. Alors, il faut savoir, c'est que donc, Mathieu précisait ça tout à l'heure, c'est important, c'est que Didier Anzieux est un psychanalyste français. Donc, et ce qu'il amène avec la question du moi-peau, par rapport à ce qu'est la psychanalyse en France, c'est pas anodin. Dans le sens où, en France, il y a quand même une figure dominante, qui est la figure de Jacques Lacan, qui a quand même beaucoup insisté et beaucoup travaillé autour de la question du langage, et peut-être en faisant du corps et des sensations corporelles, un peu le corps, c'est un peu le grand absent de la question. Et donc, ce que nous dit Anzieux à travers sa conception du moi-peau, c'est que c'est justement le corps va permettre aux fonctions psychiques de s'étayer dessus. Voilà. Au départ, il y a le corps. Au départ, il y a les perceptions, il y a les vécus, il y a les douleurs, il y a les sensations de bien-être, etc., etc. Donc, Anzieux amène sa théorisation et son concept du moi-peau dans un livre qui s'appelle « Le moi-peau » qui date de 1985. Donc, Anzieux va reprendre le contexte du nourrissage, il va quand même reprendre un peu ce qui s'est dit de l'autre côté de la Manche avant lui. Donc, il nous dit que pendant le nourrissage, le bébé fait trois types d'expériences. Donc il y a l'expérience d'un contact différenciateur par le mamelon dans la bouche et l'incorporation du lait. Alors, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir un contact discontinu. Par moment, il y a contact avec le mamelon, parfois il n'y a plus contact, etc. Et comme on est dans quelque chose qui revient rythmiquement, puisque l'expérience du nourrissage revient plusieurs fois par jour, il y a quelque chose qui va s'intégrer à cet endroit-là. Il prend conscience petit à petit que cet objet qui vient le combler avec son lait, ce n'est pas lui. C'est un objet qui vient de l'extérieur. Au départ, ce dont il était un peu question la semaine dernière, l'enfant est dans un rapport un peu hallucinatoire à la satisfaction de ses désirs. La deuxième expérience qu'en Dieu nous décrit dans ce contexte de nourrissage, c'est que l'enfant fait l'expérience d'un centre de gravité par la répression. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un noyau central, on pourrait dire ça comme ça, et puis qui vient se poser en son corps. Alors là, on revient encore sur la troisième expérience qu'il décrit, c'est toutes les stimulations tactiles par le fait d'être tenu, porté, serré contre le corps de la mère, manipulé, caressé, etc., etc., avec également tout le bain de parole et de communication qui va accompagner. Donc, on est toujours dans la même idée. Donc, ces expériences, elles conduisent le bébé à différencier d'une surface qui va comporter une face interne et une face externe. C'est-à-dire qu'il prend conscience qu'il y a une limite entre son moi, son sentiment d'être, a une limite à certains endroits. Donc, cette surface qui distingue le dedans du dehors, Anzieux va l'appeler interface. Et donc cette interface et le volume dans lequel baigne l'enfant, ça donne à l'enfant cette sensation de contenance. Donc ainsi, à l'occasion des expériences de contact de son corps avec le corps de la mère, dans le cadre d'une relation sécurisante d'attachement avec elle, le bébé acquiert la perception de la peau comme surface, ce qui engendre d'une part la notion d'une limite entre l'intérieur et l'extérieur, ce que je vous disais, et d'autre part, un sentiment d'intégrité de l'enveloppe corporelle. Ce sentiment d'intégrité donne au moi une enveloppe narcissique et un bien-être de base, d'où l'idée du moi-peau. Et par moi-peau, Anzieux désigne, donc là je vais noter la citation, une figuration dont le moi de l'enfant se sert au cours des phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme moi contenant les contenus psychiques, à partir de son expérience de la surface du corps. Donc là, Anzieux nous dit que c'est à partir de l'expérience de la surface du corps. Et donc, à partir de cette proposition, qui va développer l'idée que le moi-peau a 8 fonctions. Donc, comme il va faire une correspondance entre les fonctions du moi-peau et les fonctions de la peau en tant qu'organe, je vais vous redonner quelques fonctions de la peau organique. Donc, ce qu'on retrouve dans la peau, c'est toutes les terminaisons nerveuses, qui permettent de se ressentir la chaleur, le froid, les contacts, la douleur, etc. Et donc, c'est des perceptions qui ont un intérêt de défense et d'adaptation, évidemment. Le deuxième rôle de la peau, ça va être un rôle de défense. Donc, protection contre les entrées ou les sorties d'eau. C'est-à-dire que là encore, au niveau de la constitution même de la peau, il y a une surface interne qui est le derme, qui est gorgée d'eau, et l'épiderme qui est en surface, qui est plutôt un milieu hydrophobe et qui permet à l'organisme de conserver son eau. Alors, là, si on essaie de faire une projection sur ce que ça peut représenter sur un plan psychique, comment est-ce que le moi-peau permet de contenir à l'intérieur les expériences sans qu'elles débordent. On pourrait voir ça comme ça, mais on va y revenir dessus. Et puis donc, il y a aussi une fonction limite du dedans vers le dehors, mais aussi du dehors vers le dedans, c'est-à-dire que la peau a aussi pour un objet et intérêt de protéger contre la pénétration des substances chimiques, etc., des agents infectieux. Et puis donc, un troisième élément serait un rôle de renouvellement de la peau, de cicatrisation, etc., en cas de tout le système immunitaire qui permet à l'organisme de se défendre tout seul. Et puis une fonction qui est importante aussi pour la peau, c'est la thermorégulation, qui fait de maintenir le milieu intérieur à une température constante. Ce qui fait que quand il fait froid, les vaisseaux se dilatent, ça augmente la circulation sanguine, ça permet de réchauffer un petit peu, et inversement, il y a tout le phénomène de transpiration qui permet justement de refroidir. Donc là, on est dans les fonctions organiques de la peau. Bon. Anzieux nous dit que il insiste tellement finalement sur la dimension perceptive et donc sur le rôle de la peau organique qu'il a fait un peu une correspondance et décrit 8 fonctions pour le moi-peau qui correspondent à ses idées et aux fonctions de la peau en tant qu'organe. Donc, la première fonction qui nous décrit, donc la citation est de lui, de même que la peau remplit une fonction de soutènement du squelette et des muscles, de même le moi-peau remplit une fonction de maintenance du psychisme. La fonction biologique est exercée par ce que Winnicott a appelé le holding, dont vous parlez la semaine dernière, c'est-à-dire par la façon dont la mère soutient le corps du bébé. La fonction psychique se développe par l'intériorisation du holding maternel. Le moi-peau est une partie de la mère, particulièrement ses mains, qui a été intériorisée et qui maintient le psychisme en état de fonctionner, du moins pendant la veille, tout comme la mère maintient en ce même temps le corps du bébé dans un état d'unité de solidité. Donc l'idée, c'est que le moi-peau permet une forme de tonus psychique, une maintenance, permet de la psyché d'être, d'intégrer cette, cette capacité à être tenu, à être maintenu par l'intériorisation de cette expérience-là, du holding. Alors, Onze Yeux nous propose une deuxième fonction. Alors, la fonction là, j'en ai parlé tout du long, donc c'est la fonction de contenance. Donc là encore, il fait une correspondance entre la peau et le moi-peau. La peau qui recouvre la surface entière du corps et dans laquelle sont insérés tous les organes des sens externes répond à la fonction contenante du moi-peau. Cette fonction est exercée principalement par le handling maternel. Donc, c'est tout ce qui est le fait d'être manipulé, les caresses, etc. Ça permet de sentir la peau comme un espace limite entre le dedans et le dehors. Voilà ce qui nous dit la sensation image de la peau comme un sac, c'est-à-dire un sac qui va contenir l'ensemble de l'organisme. Donc voilà, elle est éveillée chez le tout-petit par les soins du corps appropriés à ses besoins que lui procure la mère. Le moi-peau, comme représentation psychique, émerge des jeux entre le corps de la mère et le corps de l'enfant, ainsi que des réponses apportées par la mère aux sensations et aux émotions du bébé. Réponses gestuelles et vocales, car l'enveloppe sonore redouble alors l'enveloppe tactile. Réponse à caractère circulaire, les écholalies et les échopraxies de l'un imitent celles de l'autre. Réponse qui permet au tout petit d'éprouver progressivement ses sensations et ses émotions à son propre compte sans se sentir détruit. Donc là, à travers ce paragraphe, on retrouve un petit peu ce que j'ai développé depuis le début, et notamment quand je vous ai parlé des théories de Bion et de Bic. Donc, on va passer à la troisième fonction du moi-peau, qui est le parexcitation. Donc, c'est la fonction de protection du milieu extérieur. La couche superficielle de l'épiderme protège la couche sensible de ce et l'organisme, en général, contre les agressions physiques, les radiations, l'excès de stimulation. Donc là, il cite Freud, dès l'esquisse d'une psychologie scientifique en 1895, Freud avait parallèlement reconnu au moi une fonction de parexcitation. Voilà, le moi est là pour s'adapter à l'environnement, et donc, par conséquent, de protéger la psyché contre les éventuelles agressions venues de cet environnement-là. Je finis la citation. Dans l'esquisse de 1895, Freud laisse entendre que la mère sert de parexcitation au bébé, et cela, c'est moi qui l'ajoute, en Dieu, jusqu'à ce que le moi en croissance de celui-ci trouve sur sa propre peau un étayage suffisant pour assumer cette fonction. Voilà, il dit, ça passe d'abord par la mère, ensuite l'enfant s'appuie sur son expérience perceptive de la peau, pour ensuite pouvoir intégrer ça psychiquement et pouvoir peut-être un peu plus délaisser la dimension perceptive. Donc, vous voyez bien que les huit fonctions décrites par Onze Yeux se recoupent. Hein, il y a quelque chose de... tout se tient. Donc, la quatrième... fonction du moi-peau, selon Onze Yeux, c'est l'individuation du soi. Donc là, le moi-peau assure une fonction d'individuation du soi qui apporte à celui-ci le sentiment d'être un être unique. Donc là, c'est ce qu'on décrit dans le fait de pouvoir être en mesure de savoir attribuer à soi-même ou à l'environnement ce qui se passe, tout simplement, les sensations, les perceptions, etc., etc. Et le fait de pouvoir développer le sentiment d'être un être unique. Cinquième fonction, l'intersensorialité. Donc l'intersensorialité, ça décrit exactement le processus dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à relier, à associer des éléments de nature perceptive différente. Le moi-peau est une surface psychique qui relie entre elles les sensations de diverses natures et qui va les faire ressortir comme figure sur ce fond originaire qu'est l'enveloppe tactile. c'est la fonction d'intersensorialité du moi peau qui aboutit à la constitution d'un sens commun, dont la référence de base se fait toujours au toucher. Voilà, la capacité de lier les éléments entre eux sont liées au moi peau. Sixième fonction qu'elle soutient de l'excitation sexuelle, le moi peau remplit la fonction de surface de soutien de l'excitation sexuelle, surface sur laquelle, en cas de développement normal, les zones érogènes peuvent être localisées, la différence des sexes reconnus et leur complémentarité désirée. On peut tout dire tout simplement qu'à travers les expériences perceptives de la peau, viennent s'organiser la question du plaisir et du déplaisir, parce que ça, c'est le corollaire qu'il a avec. C'est-à-dire comment est-ce que, avec l'environnement et à travers des sensations, le sujet peut être amené à prendre du plaisir. Alors bon, quand on parle d'excitation sexuelle, on pense rapidement à tout ce qui est d'ordre génital. C'est quand même, en psychanalyse, on a quelque chose de plus large. Si je prenais l'exemple de quelqu'un qui prend plaisir à se faire dorer la pilule, par exemple, on serait exactement dans ce cas de figure-là, dans le fait de pouvoir éprouver du plaisir à travers les perceptions à la surface de la peau. Septième fonction, ce qu'il appelle la recharge libidinale, à la peau comme surface de stimulation permanente du tonus sensorimoteur par les excitations externes, répond la fonction du moi-peau de recharge libidinale du fonctionnement psychique, de maintien de la tension énergétique interne et de sa répartition intégrale entre les sous-systèmes psychiques. Alors là, on retrouve l'idée que c'est à cet endroit-là aussi que l'énergie psychique, ce qu'on appelle la libido, va se répartir. La gestion de cette répartition de la libido s'effectue à cet endroit-là, c'est-à-dire par la capacité qu'a le sujet à rassembler tous ces éléments finalement au sein d'une même peau, et puis à n'oublier aucun élément, c'est-à-dire maintenir dans chacune des parties suffisamment d'investissement. Donc, et la huitième et dernière fonction du moi-peau, c'est l'inscription des traces sensorielles. Donc, le moi-peau remplit une fonction d'inscription des traces sensorielles tactiles. Okay. Cette fonction est renforcée par l'environnement maternel dans la mesure où il remplit son rôle de présentation de l'objet auprès du tout-petit. Cette fonction du moi-peau se développe par un double appui biologique et social. Donc là, pour le biologique et le social, je peux préciser, donc le biologique, on a tout de suite une idée de ce qui se passe au niveau de la perception, au niveau de la peau et de la manière dont ça peut s'inscrire. Au niveau social, Anzieux nous dit que l'appartenance d'un individu à un groupe social, elle se marque par des incisions, des scarifications, des peintures, des tatouages. Faites pas ça. Donc, ça se marque aussi par des vêtements, par des coiffures, etc., des maquillages. Donc, le moi-peau, ce que nous dit Anzieux, c'est que c'est le parchemin original qui conserve, à la manière d'un palimpseste, les brouillons raturés, grattés, surchargés d'une écriture originaire préverbale faite de traces cutanées. C'est une pensée assez complexe. Enfin, c'est l'idée que tout ce qui a été perçu de façon sensorielle sert ensuite, d'un point de vue social, est repris et utilisé par le moi, par le moi-peau, à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas l'effet que peut vous faire cette théorisation sur le moi-peau. Une des critiques qui lui est faite, c'est un écueil un peu animiste, c'est-à-dire faire des correspondances un peu trop faciles, un peu trop rapides et un peu trop systématiques entre la peau en tant qu'organe et puis le moi-peau en tant que fonction psychique. Ça, par exemple, c'est une des critiques qui peut être faite par quelqu'un comme Albert Sicon, qui est un psychanalyste lyonnais qui intervient à l'Université Lyon 2. Là-dessus, c'est difficile de trancher. Je pense qu'on retrouve un petit peu la question qui nous anime depuis le début, à savoir le dualisme ou le monisme. Est-ce qu'il y a une continuité directe entre le corps, le soma et l'esprit, ou est-ce qu'il y a une rupture qui est quand même plus importante, ce qui rend difficile de faire des correspondances aussi directes. Bon, chacun pensera ce qu'il en voudra, mais on peut quand même noter que la peau, c'est un organe avec des fonctions physiologiques, etc. Mais c'est aussi un objet psychique qui a aussi une dimension culturelle, une dimension sociale, et qui, à travers le langage en particulier, le langage, c'est un super témoin de cette dimension-là. On pense beaucoup en fonction, à partir de son corps. Il y a un certain nombre d'expressions imagées qui vont mettre en avant les yeux et la peau, et la tête et les bras, etc., etc. Ce qui signe quand même qu'on s'appuie quand même fortement dès le départ sur cette expérience sensorielle, que c'est quelque chose qui vient organiser notre vécu dès le plus jeune âge, et que c'est une expérience qui continuera de nous traverser même à travers une dimension plus métaphorique. Par exemple, je parlais d'expression imagée, alors, puisqu'on est sur la question de la peau, c'est peut-être pas par hasard qu'on dit qu'on est bien dans sa peau, ou qu'on est mal dans sa peau. On dit que quelqu'un qui a une réaction épidermique, ou que c'est un écorché vif, ou qu'il a fleur de peau. Alors, on trouve toujours ces questions qui montrent que la peau est une fonction limite qui a pour but de contenir les débordements internes. Alors à l'inverse, on dit que quelqu'un a la peau dure, qui peut résister aux agressions extérieures, on peut dire ça comme ça. En même temps, la peau, c'est quelque chose de vital. Qu'on peut avoir la peau de quelqu'un, lui faire la peau, lui trouver la peau, etc., etc. On risque sa peau, tenir à sa peau, etc. Enfin, un certain nombre d'expressions comme ça qui sont quand même lourdes de sens sur la fonction psychique qu'occupe le corps, on va dire. Alors ça, on le trouve également à d'autres endroits. Quand on aime quelqu'un, on peut dire qu'on l'a dans la peau. Là encore, la limite est abolie. C'est finalement toute la question. Là, on retrouve l'individuation du soi. Alors, on retrouve un petit peu cette question-là. À quel moment on se sent dans un prolongement par rapport à l'autre, à quel moment on se sent complètement différencié. On retrouve ça dans la question de jouer un personnage. On dit qu'on se met dans la peau d'un personnage, qu'on entre dans la peau d'un personnage. Quand les vêtements nous vont bien, on dit qu'ils nous vont comme une seconde peau, etc. Enfin, de toute façon, on pourrait multiplier beaucoup les exemples. Et là, je me suis attardé sur la peau, mais on peut l'étendre à n'importe quelle partie du corps et puis à n'importe quelle fonction sensorielle. Hein. Quand quelqu'un nous revient pas, on peut dire qu'on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir, on retrouve ces idées-là. Donc, bon, je vais m'arrêter là sur la question du moi-peau pour arriver petit à petit une conclusion. À partir de ces différents modèles, de toutes ces déclinaisons de l'enveloppe psychique, du contenant, etc., ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dès mon introduction, c'est que cette fonction contenant, ce n'était pas un objet psychique en tant que tel, mais c'était plutôt un ensemble de processus à l'œuvre au sein de l'appareil psychique. Alors on trouve avec cette idée que l'enveloppe, elle résulte de l'intériorisation de l'objet contenant ou de la fonction contenante de l'objet. Je pense que c'est l'idée qu'il faut essayer de garder, à savoir l'enfant au départ n'est pas en mesure d'avoir une représentation contenue de lui-même, d'avoir une représentation différenciée, etc., et que c'est à travers le contact avec l'objet, la mère, l'adulte, l'environnement extérieur, etc., qui va pouvoir s'attribuer et intégrer cette fonction-là pour la faire sienne et pour, plus tard, quand il y aura son tour des enfants, aider ceux-ci à intégrer eux-mêmes leur propre fonction contenante. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est qu'on souvent on part d'un besoin, d'un état de désorganisation. Un enfant qui a faim, par exemple, c'est l'exemple le plus courant qu'on donne. Mais on peut dire que c'est cette intériorisation de la fonction contenante, elle passe non seulement par le fait de répondre aux besoins de l'enfant quand il est en état de désorganisation, mais ça passe aussi par une certaine sollicitation. Voilà, l'objet ne doit pas seulement répondre aux besoins du bébé, les transformer et protéger le bébé de la désorganisation, il doit aussi le solliciter, l'attirer vers des niveaux de présence, d'intégration, d'organisation, d'expérience émotionnelle plus élevée. Un enfant, il ne faut pas se contenter d'attendre qu'il fasse appel à nous, lui-même. Il faut aller vers lui pour le stimuler, le solliciter et l'aider à intégrer ces éléments-là. Donc ça passe par une certaine rythmicité des expériences. Voilà. La rythmicité, ça permet l'anticipation, ça donne une illusion de permanence. La rythmicité, ça participe à constituer le sentiment d'enveloppe parce qu'elle produit comme une sorte d'illusion de la continuité. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que la principale qualité de l'objet pour assurer la fonction contenante, et qui va regrouper un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est l'attention. Voilà. Toutes les qualités reposent sur une attitude attentive de l'objet. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.